On s'intéresse à l'hypnose d'un point de vue scientifique et thérapeutique. C'est un peu presque sur le même thème. J'ai reçu Mesmer, l'hypnotiseur, il y a quelques semaines, puis vous aviez beaucoup de questions pour lui en lien avec les vertus potentielles sur votre santé de l'hypnose, parce qu'il l'a évoqué, mais bon, lui, c'est d'un côté spectacle, mais il disait, bon, ça peut se pratiquer dans un point de vue thérapeutique. Alors, pour en discuter, on a décidé d'inviter un spécialiste. C'est David Auger, qui est docteur en psychologie. Il est clinicien-chercheur au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et il est responsable du comité scientifique de la Société québécoise d'hypnose. Bonjour, Monsieur Auger.
Bonjour.
Donc, j'invite les auditeurs à poser leurs questions parce qu'il y en avait énormément. Est-ce qu'on peut arrêter de fumer, arrêter de boire de l'alcool? Est-ce qu'on peut soulager des douleurs? Donc, les numéros de téléphone pour nous appeler à Montréal, c'est le 514-790-9850. Ailleurs au Québec, le 1-866-790-9850. Par texto, le 98985. J'irai d'une première question. Est-ce qu'avec l'hypnose, on peut soigner un choc post-traumatique? Parce que à lire les commentaires de plusieurs auditeurs, il y a des personnes en état de choc en ce moment. C'est une blague, mais bon.
Oui, non, mais l'hypnose est un outil, effectivement, pour traiter le choc post-traumatique. Alors, pour l'instant, le choc n'est pas encore post-traumatique parce qu'il est aigu, hein, si vous parlez de l'élection. Mais dans le cas d'un choc post-traumatique, ce qui se passe souvent, c'est que le patient est encore figé dans son moment traumatique, dans le passé. Et donc, on peut réactualiser, grâce à l'hypnose et différentes techniques, pas que l'hypnose d'ailleurs, les stratégies anxieuses du patient. Donc, on peut vraiment le ramener au présent et lui faire quitter, en fait, ses expériences douloureuses.
Là, bon, on va revenir au début. Là. Mmh. On en a beaucoup entendu parler de l'hypnose dans un point de vue, dans une perspective de spectacle. Mesmer a rendu populaire l'hypnose ici au Québec, mais aussi partout en France. Mais c'est de plus en plus populaire d'un point de vue thérapeutique. C'est bien le cas. Pourquoi ça?
Mais parce qu'en fait, l'hypnose, c'est un ancien traitement thérapeutique. Il existe depuis très, très longtemps, sauf qu'il a un peu perdu de sa splendeur à cause des pharmacologies, notamment dans le cadre de l'anesthésie, à cause de la psychanalyse à l'époque pour la psychothérapie. Donc, on en a un peu moins parlé, mais il a toujours été présent sur la scène thérapeutique. Si on en parle un peu plus aujourd'hui, c'est parce que grâce à la résonance magnétique et grâce à la recherche, on a pu mettre en évidence en fait, des phénomènes cérébraux associés aux états d'hypnose. Et comme maintenant, on a des preuves scientifiques, des données probantes, on peut se permettre de l'utiliser dans un milieu médical, notamment en anesthésie, mais également dans des contextes psychothérapeutiques.
C'est quoi l'hypnose à la base?
Alors, il faut bien le différencier par rapport à Mesmer, parce que quand on voit des personnes en scène en train de faire de l'hypnose, on a l'impression qu'ils perdent le contrôle. Alors que l'hypnose, c'est justement...
Les personnes qui sont hypnotisées, on a l'impression qu'elles n'ont plus le contrôle. Okay.
Tout à fait. On a l'impression que c'est l'hypnotiseur qui a le contrôle. Mais dans les faits, l'hypnose, c'est un phénomène spontané. C'est un phénomène naturel. On a tous cette capacité à aller ailleurs dans notre esprit. On a tendance à le faire plutôt sur des moments négatifs et pas positifs. Et donc l'idée du travail en hypnose, c'est de ramener les personnes dans leur positivité. Et donc dans ce cas-ci, on va utiliser leurs propres compétences en hypnose. Donc c'est pas un pouvoir que l'hypnotiseur a, c'est le patient qui a le pouvoir dans ce cas-là.
Puis qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un patient qui entre en état d'hypnose?
On identifie dans le cerveau des capacités à être absorbées. Donc par exemple, on va essayer de limiter les parties rationnelles du cerveau qui seront un peu moins activées et plus les parties créatives du cerveau qui vont être plus activées pour trouver des solutions. On sait aussi, beaucoup de recherches qui ont été menées d'ailleurs ici à Montréal, que pour la douleur, on est capable de réguler l'affect associé à la douleur. On est capable de réguler l'intensité de la douleur au niveau cérébral. Donc on a différents marqueurs qui sont présents dans le cerveau qui nous indiquent effectivement que les personnes répondent bien à nos suggestions.
OK. Donc là, qu'est-ce qu'on peut, à partir de ce moment-là, traiter d'un point de vue thérapeutique avec l'hypnose? Là, c'est ce qui nous intéresse un peu. Il y a déjà plein de questions dans la messagerie à ce sujet-là. Mais avant d'aller avec les questions des auditeurs, ce serait agréable d'avoir un portrait de qu'est-ce qu'on peut faire. D'abord, vous avez dit en anesthésie, on pratique d'un point de vue médical. C'est bien ça?
Oui, on peut utiliser l'hypnose dans des anesthésies de surface. Donc, évidemment, il y a eu un article il y a plusieurs années dans Le Monde qui parlait d'une hypnoanesthésie pour une greffe du cœur, ce qui est faux. Mais on peut traiter, par exemple, des anesthésies de surface, donc des chirurgies de surface, pardon, qui sont, comme par exemple, enlever des mélanomes ou faire des thyroïdectomies. Donc, ce sont des traitements qu'on peut utiliser dans la mesure où on est capable de diminuer la perception douloureuse du patient. Donc, ça, c'est des choses qui se font. On est en train d'essayer de le développer avec la Société québécoise d'hypnose un peu plus ici au Québec. Ce n'est pas encore suffisamment développé. Mais en Europe, par exemple, c'est très commun. Donc moi, je viens de Belgique. Oui. Et en Belgique, en fait, on opère On fait des mastectomies sous hypnose, tumérectomies sous hypnose.
Mais voyons donc.
Non, non, tout à fait. Donc, c'est vraiment des stratégies qui
Alors,
sont assez
développées. Alors, il n'y a rien, aucun gaz, aucun, uniquement l'hypnose. Pour exemple, faire une mastectomie, c'est quand même une grosse opération.
Il n'y a pas d'anesthésie générale, mais par contre, il y a des sédatifs, mais qui sont dans les études démontrés comme étant minimes. Donc évidemment, le confort du patient reste toujours la priorité. Donc l'anesthésiste reste disponible pour pouvoir réguler les sédatifs au cas où c'est nécessaire. Mais quand on documente les sédatifs, derrière l'opération, les doses sont assez faibles. Et il y a beaucoup d'études qui l'ont déjà démontré. La plus importante, c'était en 2000, qui s'était publié dans le Lancet, hein, qui est la référence en médecine de Elvira Lang, qui avait démontré effectivement cette capacité à diminuer les médications sédatives, de ne pas utiliser les anesthésies et surtout de favoriser un retour à la maison assez rapide.
Là, je vois, on parle de quelque chose qui est très médical dans ce que vous dites. On ne pratique pas nécessairement encore ici au Québec. D'ailleurs, pourquoi ça?
Ah, c'est une bonne question.
Est-ce qu'on peut voir qu'il y a des avantages? On utilise moins de médicaments?
Ben, je pense qu'il reste encore quand même pas mal de mythes. Donc, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans mes recherches, c'est qu'il y a énormément de mythes encore sur l'hypnose, des fausses croyances. Hein, donc, on en parlait d'une tout à l'heure, la question du contrôle, alors qu'en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on est en train de mener une étude justement pour essayer de mieux comprendre les mythes et les croyances des gens. Après, évidemment, il y a toujours aussi la question de la sécurité associée à la pharmacologie. Donc ça, c'est que les patients, parfois, si on leur dit, apportez-moi cette croyance-là, bah, écoutez, on va faire de l'hypnose pour vous faire une anesthésie. À côté, on va vous donner un médicament qui va vous empêcher de vous souvenir de ce qui s'est passé. Je pense que beaucoup de gens seraient beaucoup plus rassurés par la pharmacologie. Donc, il y a beaucoup d'éléments à travailler de ce côté-là. Les personnes qui, habituellement, vont faire de l'hypnose en sédation, c'est des personnes qui ne peuvent pas faire d'anesthésie dans un premier temps.
Donc, pour quelles raisons?
Bon, pour des raisons, je ne sais pas, par exemple, des personnes âgées. Okay. Oui, tout à fait.
Il y a un auditeur qui écrit « Docteur Auger, grâce à vous, je réussis à gérer ma douleur et j'ai beaucoup diminué ma consommation de médicaments. Ouais. » On a des auditeurs qui font partie de vos patients quand même. Il y a un auditeur qui demande « C'est quoi la différence entre l'hypnose et les médicaments hypnotiques? »
Les médicaments hypnotiques?
Ah, je ne sais pas. C'est une question. Est-ce que ça existe, des médicaments hypnotiques?
Ben, les hypnotiques, dans le sens où moi, je les comprends, c'est surtout les somnifères. Donc, les somnifères comme les zolpidem, etc., oui, sont des hypnotiques qui permettent de dormir. Donc, est-ce que c'est ça dont on parle?
C'est l'impression que j'ai, okay, mais s'il n'y a pas de...
Mais en fait, un hypnotique, au sens où moi, je le comprends, donc les somnifères, ce sont des médicaments qui vont, entre guillemets, éteindre la lumière. Donc, la personne va avoir, comme à un moment donné, cet endormissement spontané. Donc, alors que l'hypnose, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Donc, c'est une transition. C'est très proche de la méditation, finalement, la sensation d'hypnose. Donc, on a l'impression qu'on est en train de partir dans un rêve. Alors que les hypnotiques, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de « on éteint la lumière spontanément ».
C'est vraiment pas la même chose qui se passe dans le cerveau. Là. Ouais. Une autre question, est-ce que les acouphènes peuvent être guéris avec l'hypnose? On parle des bruits là, dans les oreilles.
Tout à fait. Il existe des techniques, effectivement, qui permettent de traiter les acouphènes. Alors, évidemment, il y a beaucoup de protocoles qui existent en hypnose. On a des manuels, on a des protocoles de suggestions qui sont faites. Et il y a plein de suggestions qui sont faites dans différents domaines. On parle des acouphènes, mais même dans d'autres domaines. Mais si on veut traiter les acouphènes de quelqu'un, il faut essayer de comprendre aussi la raison pour laquelle il y a ces acouphènes, la cause des acouphènes. Donc, ça veut dire que l'hypnose peut travailler tant sur le symptôme, mais également sur la manière dont le problème est apparu. Si maintenant, c'est associé, par exemple, au travail et qu'il y a un stress au travail, je pense que c'est bien de travailler un peu tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de protocole. Il existe des protocoles avec des suggestions, mais c'est important de pouvoir accompagner la personne dans ce qu'elle vit. Donc, mais les acouphènes, oui, il y a des techniques qui sont des histoires qu'on raconte. Il y a plein de métaphores, en fait, qu'on peut raconter aux patients pour essayer de réguler cette sonorité et de faire en sorte qu'elle devienne beaucoup plus neutre, par exemple.
C'est fascinant. Puis, j'en entends beaucoup parler aussi de l'hypnose pour le traitement des dépendances. J'entends souvent exemple que quelqu'un peut arrêter de fumer en ayant un processus d'hypnose. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, il y a beaucoup de techniques. Alors, au niveau des dépendances, il faut faire attention parce que le premier aspect, c'est qu'en psychologie, parce que n'oublie pas une chose, c'est que là, on parle de techniques d'hypnose qui sont associées à de la psychothérapie. Donc, ce sont des psychologues et des thérapeutes qui vont accompagner les patients dans ce contexte-là. Lorsqu'on veut travailler une dépendance, il faut d'abord évaluer l'importance de cette dépendance. La motivation, il existe en thérapie cognitive comportementale plein de techniques pour évaluer les stades motivationnels du patient. Et si le patient est motivé à changer, l'hypnose, c'est finalement le coup de pouce qui va être utilisé pour aider le patient à arrêter de fumer. Donc, par exemple, si la personne vient dans mon bureau pour arrêter de fumer, ben, elle l'a décidé. Et il y a une part d'elle qui veut continuer, qu'on peut appeler pulsionnelle, hein, cette pulsion de la cigarette. Mais il y a une grande part qui est plutôt rationnelle, qui dit « mais je sais que la cigarette, ce n'est pas bon pour ma santé
oui, ». Oui.
Et donc, dans l'hypnose, on va essayer de mobiliser cette part-là, motivée, pour qu'elle prenne le dessus. Mais encore une fois, ce n'est pas magique.
C'est ça que j'allais dire. Ce n'est pas une solution magique. J'ai l'impression que des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir cette idée-là. Ce serait bien que j'arrête de fumer. Je vais aller là, puis ils vont m'enlever l'envie de fumer ou ça va s'arrêter tout seul comme ça. Non, c'est comme il y a une base au processus.
Oui, il y a tout un travail motivationnel. J'avais un jour une personne, une dame qui était venue pour arrêter de fumer. Puis en travaillant avec elle, sa motivation, ben, finalement, c'est son conjoint qui voulait qu'elle arrête. Elle, elle ne voulait pas arrêter de fumer.
Dans ce contexte-là, ça ne fonctionne pas.
Donc, c'était inutile de faire de l'hypnose parce que la motivation est importante. Et puis, en lien avec les dépendances, c'est important de préciser, parce que là, on parle de tabac, mais toutes les dépendances beaucoup plus importantes, comme notamment l'alcool, qui sont des dépendances avec des symptômes de sevrage assez importants. Je veux dire, ça nécessite un suivi médical, hein, parce que les dépendances physiques ne sont pas prises en charge nécessairement par l'hypnose.
On a beaucoup, beaucoup de questions d'auditeurs. David Auger, je rappelle, vous êtes directeur en psychologie, vous êtes aussi clinicien, chercheur au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous êtes responsable du comité scientifique de la Société québécoise d'hypnose. L'hypnose, on en entend de plus en plus parler.
Vous écoutez Radio Texto.
Mon invité est toujours devant moi. On parlait hypnose avant la pause, avant d'apprendre cette grosse nouvelle. C'est David Auger qui est directeur en psychologie. Il est aussi clinicien-chercheur au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, responsable du comité scientifique de la Société québécoise d'hypnose. C'est ça, on parle d'hypnose et je l'ai dit, il y a énormément de questions dans la messagerie. Il y a une auditrice qui dit qu'elle voit beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux comme quoi l'hypnose pourrait arrêter d'aider à arrêter de consommer de l'alcool, mais ce sont des applications d'hypnose en ligne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi votre position?
Oula, OK.
Je viens de me lancer sur un gros dossier, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Mais en fait, encore une fois, la problématique de dépendance, mais quelle que soit la problématique en psychiatrie, entre autres, ça prend une prise en charge individualisée. Donc, peut-être que les applications peuvent aider. Je pense qu'il y a des applications style méditation, des applications pour diminuer le stress, pas nécessairement en lien avec l'hypnose uniquement, mais de méditation, ça peut être très aidante aussi pour des personnes qui ont des problèmes de dépendance ou des problèmes d'anxiété. Mais le problème de dépendance, ça prend un suivi médical déjà, parce qu'il y a quand même des risques de sevrage physique qui existent, et ça prend aussi un traitement adapté. Donc, que ce soit avec l'hypnose ou avec n'importe quel type d'intervention, la dépendance nécessite une prise en charge individualisée et pas des prises en charge qui sont diffusées de manière assez large.
Puis sinon, là, si on pense à autre chose que la dépendance, là, est-ce que les approches en ligne peuvent fonctionner? Est-ce qu'on peut pratiquer l'hypnose avec l'aide d'une application? Ça n'a aucun sens, ça doit se faire en personne. Moi, j'ai l'impression que c'est plus efficace avec quelqu'un, oui. Mais bon, c'est vous le spécialiste, là?
On peut. Non, tout à fait, parce que encore une fois, les hypnoses sont faites de manière individualisée. Donc, si par exemple, une personne a de l'anxiété, et qu'on en connaît l'origine, ou bien on comprend la problématique propre à la personne, mais on va pouvoir l'adapter. Après, il existe des manuels, ou il existe des livres d'auto-hypnose qui sont écrits par des thérapeutes, qui permettent d'approfondir le travail qui a été fait en cabinet. Donc moi, par exemple, pour mes groupes de gestion de douleur, je propose des interventions, puis je donne à mes patients des audios pour qu'ils puissent reproduire les séances. Donc ça peut se faire. Si maintenant une personne a envie simplement de gérer son anxiété, son stress au quotidien, il y a certainement des manuels ou des livres qui sont publiés par des thérapeutes qui sont de bonne qualité et qui peuvent bien les aider. Mais là, on est plus dans de la prévention que dans du traitement.
Une autre question, est-ce que l'hypnose peut aider un enfant TDAH impulsif à mieux gérer ses émotions et sa colère? Ça, c'est un parent, j'ai l'impression, qui pose cette question-là.
Ça dépend de l'âge de l'enfant.
OK, mais vous traitez des enfants des fois?
Moi, pas. Mais il y a des thérapeutes, effectivement, qui pratiquent avec des enfants. Des personnes avec du TDAH, ça m'arrive d'en rencontrer aussi. Donc oui, il y a des techniques spécifiques. La difficulté qu'il y a, il y a la facilité et la difficulté avec les enfants, c'est que les enfants sont très suggestifs. Donc ils répondent très bien aux suggestions hypnotiques. Ils rentrent facilement en hypnose, mais aussi ils sortent très facilement d'hypnose. Hein, si on demande par exemple à un enfant, on leur raconte une histoire le soir, qu'on pense qu'il dorme et qu'on part sur la pointe des pieds et qu'il ne dort pas, il va nous rappeler à l'ordre, en fait. Mais dans l'hypnose, c'est pareil. C'est que si à un moment donné, on fait des suggestions, ils sont quand même beaucoup plus présents, ils entendent les suggestions. Donc, ils rentrent et ils sortent facilement. Donc, ça, c'est des enjeux. Donc, pour un TDAH, par exemple, c'est un enjeu.
Encore plus, c'est ce que je comprends,
Donc, il y a des techniques probablement spécifiques. Il y a des spécialistes en pédiatrie qui peuvent effectivement les accompagner. Donc, sur le site de la Société québécoise d'hypnose, par exemple, il y a moyen d'identifier les personnes qui travaillent avec des enfants. Et puis, on peut même identifier les problématiques que ces professionnels ciblent. Donc, on peut trouver des ressources sur ce site-là, par exemple. Mais moi, je ne suis pas spécialiste des enfants, donc c'est difficile.
Mais c'est possible d'intervenir auprès d'enfants. Autre question. Est-ce que l'hypnose peut aider à enlever des deuils? Des personnes qui ont perdu un être proche, qui ont mal, est-ce que ça peut aider aussi?
Mais quand...
je vous vois, c'est pertinent.
C'est intéressant. Mais j'ai travaillé longtemps en oncologie. J'ai travaillé 17 ans en oncologie et en soins palliatifs. Donc, je connais bien la problématique de deuil. Effectivement, on peut, mais regardez, si maintenant on va enterrer quelqu'un qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait après l'enterrement? On parle du défunt. Puis on se remémore les bons moments, comme vous venez de le faire ici.
Avec Lucien Francœur, oui.
Et donc, en hypnose, on peut refaire revivre ces moments-là aussi. Donc, on peut reconnecter la personne à la part positive ou à la part au bon souvenir, en fait, de la personne endeuillée. Donc oui, il existe des techniques spécifiques pour ça.
Mais c'est un peu, je vous écoute là, c'est comme si ça pouvait devenir une solution pour un peu tout. Donc, je vais inverser la question. Est-ce qu'il y a des éléments que l'hypnose ne traite pas ou des éléments sur lesquels elle n'a aucune influence? Je dis potentiel parce que ce n'est pas tout coup.
L'hypnose est une technique. Donc, c'est une technique qu'on peut utiliser en fonction de nos compétences. Donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'anesthésie. Moi, je ne suis pas anesthésiste, donc je ne vais pas accompagner les patients en anesthésie. C'est mes collègues qui le font. Moi, je suis psychologue, je travaille pas avec des enfants, donc c'est pour ça aussi que c'est plus compliqué pour moi de répondre à cette question. Mais dans ma spécialité, en gestion de douleur ou bien dans le trauma, je peux aider mes patients. Si maintenant, demain, vous avez des personnes qui effectivement sont spécialistes du deuil, ils vont développer cette expertise-là, ils vont utiliser l'outil hypnotique pour aider leurs patients. Donc, il y a une phrase qu'on aime dire, c'est que l'hypnose, c'est comme un bistouri. On ne peut pas le donner à un enfant, mais le chirurgien, il sait quoi en faire, en fait. Donc, pour répondre à votre question, il y a un champ assez large d'utilisation de l'hypnose qui existe, mais ça dépendra toujours de la personne qui va l'utiliser. Il faut trouver juste la bonne personne pour vous accompagner.
Est-ce que c'est possible, des fois aussi, de se faire avoir? Est-ce que c'est assez comme structuré, encadré comme pratique?
Mais pas suffisamment. Okay. Vous avez entendu, il y a eu des histoires dernièrement.
Des charlatans, oui.
Sur l'hypnose en ligne, spirituelle. Tout à fait. Évidemment, mais ce n'est pas uniquement propre à l'hypnose, c'est propre à beaucoup. Le champ de la médecine non pharmacologique peut ouvrir la porte à des personnes qui, malheureusement, ne sont pas bienveillantes, elles veulent faire de l'argent. La difficulté qu'on a avec l'hypnose, c'est qu'elle n'est pas encore suffisamment reconnue, alors que c'est basé sur des données probantes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est très content que l'Ordre des psychologues du Québec s'était prononcé justement sur ce dossier. Par rapport aux règles aussi de l'utilisation d'une technique psychothérapeutique hors du cadre de la psychothérapie. Donc, ce n'est pas encore suffisamment développé, mais la Société québécoise d'hypnose, on fait attention à ça. On forme uniquement les médecins, les psychologues et les dentistes et les psychothérapeutes pour pouvoir justement utiliser les techniques qu'on leur apprend dans leur domaine de compétences. Mais ce n'est pas encore suffisamment réglementé à notre goût et peut-être que dans l'avenir, il y a des choses qui vont se mettre en place.
Qu'est-ce que ça prendrait pour l'encadrer davantage?
Ça prendrait, dans un rêve, d'intégrer, par exemple, les techniques hypnotiques comme une technique, effectivement, de psychothérapie. Parce que la psychothérapie est protégée, l'art de la psychothérapie est protégé par l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, dans un contexte psychothérapeutique, ça prendrait ça. Ça serait vraiment un élément, déjà, qui serait assez marquant. Et puis, d'ailleurs, on organise ici, à la fin novembre, un congrès à la Société québécoise d'hypnose, où justement, on veut adresser ces messages-là aux différents ordres professionnels, de pouvoir essayer de réfléchir ensemble sur comment on pourrait protéger, non pas l'hypnose,
mais la compétence,
mais les patients.
Les patients, oui. Ben oui, tout à fait. Dernière question qui nous provient d'Audrey, auditrice. Quelles sont les écoles légales qui sont les meilleures que vous pouvez suggérer? Et elle dit aussi, est-ce que c'est efficace de faire de l'hypnose avec un hypnothérapeute si on le fait en Zoom, par exemple, plutôt qu'en présentiel? Ça, on l'a abordé un petit peu, mais vers qui se tourner pour trouver quelqu'un de qualifié? On va y aller comme ça. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés à peut-être entreprendre une démarche d'hypnose.
Ben, selon mon point de vue, si maintenant vous voulez pratiquer l'hypnose, il faut aller dans une école qui donne des formations basées sur des données probantes, qui sont des données scientifiques. Donc, il n'y en a pas tant, je veux dire, des écoles comme celle-là. Donc, c'est vraiment, la base, c'est d'avoir une formation donnée par des professionnels de la santé qui sont reconnus par des ordres professionnels et qui vont donner dans leur contenu donner des techniques qui sont vraiment validées scientifiquement. Donc, c'est vraiment les critères importants. Alors, évidemment, la Société québécoise d'hypnose, c'est ce que nous, on fait. Donc, moi, je propose vraiment d'aller chercher des écoles qui se sont associées à ces techniques reconnues par la science et qui sont données par des personnes qui sont elles-mêmes reconnues par des ordres professionnels.
Donc, on peut inviter les auditeurs qui ont un intérêt soit à l'apprendre ou soit à trouver quelqu'un, un spécialiste pour les accompagner, à aller directement sur votre site Internet de la Société québécoise d'hypnose.
Tout à fait, oui.
Là, il y a un répertoire où on peut voir les personnes qui pratiquent en fonction de leur spécialité. J'y suis allée naviguer, là, c'est très, très bien fait. David Augé, je vous remercie beaucoup de votre temps aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs, vous êtes docteur en psychologie et aussi clinicien-chercheur au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous êtes responsable du comité scientifique de la Société québécoise d'hypnose. Merci beaucoup.
Merci
de votre présence aujourd'hui. Au plaisir.